faut que je mette le micro, c'est mieux. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir, en ce lendemain de derby de Lisbonne qui nous a offert un très très beau match entre deux belles équipes. Et on va bien évidemment revenir sur cette confrontation, sur ce match qui était si important pour les deux équipes. On reviendra également sur la qualification, sur la qualification, ou plutôt sur la troisième place de Braga, qui finit juste devant le Sporting du coup, parce que le Sporting devait s'imposer pour espérer accrocher cette troisième place à la dernière journée, et ce ne fut pas le cas. Ils ont pris ce but à la dernière minute qui leur dit au revoir du coup pour la Ligue des Champions. Et aussi, on reviendra aussi sur cette course au maintien qui a permis, enfin qui a fait son verdict avec la descente de Santa Clara et de Passos. Et Maritimo qui a au barrage contre l'Estrella de Amadora et qui s'annonce aussi être un très beau match entre deux clubs historiques du football portugais. Donc voilà, c'est le planning de ce soir. Et pour m'accompagner, j'ai Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Je suppose que tu vas très bien.
Bonjour Alex, bonjour à tous. Très content du résultat du derby hier. Très 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 content.
C'est.
Allez, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, c'était nous.
Alors,
Voilà.
je pense que tu pouvais pas être les deux.
Alors, non, merci Jean-Neves. Merci Jean-Neves. Très très. Premier but qui a servi à quelque chose. Non, mais sinon, très très heureux et très heureux d'être avec vous aussi ce soir, comme d'habitude, avec vous et avec les auditeurs.
J'ai aussi Philippe contre Philippe.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, écoute, ça va. Hein. C'est à 5 minutes près, j'étais pas dans le même mood. Mais ma foi, ça aurait pu être mieux encore. Mais vu la première mi-temps, on va pas bouder notre plaisir. Hein.
C'est clair, c'est clair. Et enfin, Kevin, comment tu vas, Kevin?
Salut à tous, ça va. Hein. Comme un deuxième, bon, au moins on garde notre deuxième place et on va jouer avec des champions l'année prochaine. Parce que bon, il n'y a plus rien à espérer du dernier match. Hein.
C'est déjà
Voilà,
incroyable que tu sois deuxième. Hein.
c'est déjà ça, ouais. Vu comment on est nul, c'est un miracle.
C'est un miracle, c'est vrai que ça montre aussi la compétence de constance de toujours lutter pour le titre jusqu'à la fin, depuis plusieurs années comme ça. Et c'est vrai que bon, lutter encore pour la dernière journée pour le titre, c'est quand même assez. C'est un exploit de la part de cette équipe de Porto qui est quand même très 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 mauvaise. Mais bon, on en reviendra un peu plus tard. On va commencer par le débrief du match. Match qui a eu lieu hier soir, qu'on a pu dire, le derby de Lisbonne entre le Sporting et Benfica, qui s'est soldé par un match nul. Mais c'était un très beau match, un très beau match pour les gens neutres. On a vraiment assisté à deux belles périodes. Chaque équipe a eu sa période, donc le match nul est plus que mérité. Les garçons, tout d'abord au niveau de la composition, que ce soit au niveau du Sporting ou de Braga, ou de Benfica, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou qui vous a surpris ou tout vous semblait normal? Les équipes, enfin les deux équipes jouaient avec leur maximum de force, si je dis pas de bêtises. À part peut-être Benfica où Alexandre Ba était encore un peu blessé, mais finalement il a joué 45 minutes. Philippe, je te laisse commencer sur la compo de Benfica. Et ensuite, les autres pourraient compléter.
Bah, malheureusement, pas de surprise, non. On est resté sur une compo qu'on a eue sur les 2-3 derniers matchs. Parce que enfin, Schmidt nous a déjà montré que quand ça marche bien, bah, on garde la même recette. Le problème, c'est qu'il ne s'adapte pas en fonction de son adversaire. Et hier, bah, on ne voit pas le jour en première mi-temps parce que à cause de ses choix, Chiquinho est complètement à la rue première mi-temps. Jean-Neve, je fais face à un duo qui est complètement au niveau hier soir avec Ugarte et Morita. Et bah, les garçons ont eu un peu de mal à répondre présent. Heureusement, il a réussi à répondre présent au bon moment à la fin. Orsnes, bah, à droite, forcément, ce n'est pas son poste. Face à une défense à trois, un piston gauche très haut. Qui lui a causé beaucoup de tort et il se retrouvait beaucoup de fois en situation de 2 contre 1, voire 3 contre 1, parce que Jean-Mario avait du mal à redescendre pour venir aider. Donc la première mi-temps, elle s'explique par les choix qui ont été faits par Schmidt. Et malheureusement, ça. Enfin bon, après, il a réagi à la mi-temps, mais je pense que si. Si tu fais les bons choix au début, je pense que le match est tout autre. parce qu'on on a tout simplement pas existé en première mi-temps. Et puis le fait d'avoir Tine ou complètement sur le banc et une entrée si tardive, ça, je vous avoue que j'ai pas compris. Surtout que Chiquine, alors, au bout de 10 minutes, ça se voit qu'il est pas dedans, quoi.
Ouais. Ce qui passe, c'est Roger Smith explique par une baisse au niveau de l'entraînement où il est un peu en méforme, mais c'est vrai que c'est difficilement compréhensible du sens où c'est quand même reste un joueur majeur. Enfin, c'est sa première vraie saison complète, d'après Roger Smith.
Pas comme si son concurrent il est complètement en forme.
Exactement,
quoi.
Exactement. Si ton concurrent n'est pas bon, je comprends.
Je
pas
veux trop. Bien que ça, je comprends, je reçois l'argument du fait que nous on voit pas les entraînements et même tout ce qui est investissement et fatigue, ça on n'est pas au courant. Maintenant, on voit quand même par rapport à son concurrent et j'ai un peu du mal à recevoir cet argument-là, en tout cas, sur ce cas-là.
Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la composition du Sporting ou Benfica, où c'était deux équipes qui étaient en forme avec peut-être l'absence de Paulinho, où Ruben Amorim a préféré mettre les trois de devant avec pas de points de fixation et des joueurs un peu plus mobiles?
Ouais, non, le côté Sporting, je pense que c'était plus des choix, enfin, surtout devant, il y avait un choix de partir sur Pedro Gonçalves, Trincão et Edwards sur cette ligne offensive de 3, et ce qui pouvait finalement se comprendre. Côté Benfica, ouais, plus étonné parce que j'avais quand même plus de mal à croire que Ba pouvait pas débuter ce match. Peut-être qu'il pouvait pas faire tout le match. Mais pour moi, c'était l'une des clés de cette première mi-temps. C'est aussi ce problème de d'avoir mis Orsnes dans un match d'une telle difficulté quand on connaît et on va en reparler de quand on connaît la force du Sporting sur la largeur et sur les côtés, d'avoir mis un joueur qui dépanne, qui dans des matchs de moindre difficulté est capable on l'a vu sur le dernier match de t'apporter quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui comprend très bien le jeu, qui comprend assez rapidement, et il a démontré un nouveau poste. Mais dans une confrontation de ce niveau-là, avec cette intensité-là, avec ce niveau d'exigence-là, voilà, je pense que ça a été l'une des clés de la première mi-temps du Benfica dans le côté mauvais de cette première mi-temps. Et le faire changer directement à la pause, voilà, je sais pas s'il avait vraiment plus de 45 minutes, mais après, j'ai pas envie de dire qu'il fallait mettre Gilberto à sa place, mais ça reste un dilemme du côté de Benfica de ne pas peut-être compter sur Ba tout le match, ou en tout cas même pas 60 minutes de jeu, et de devoir mettre un de tes meilleurs milieux de terrain, un de tes meilleurs finalement créateurs, un de tes meilleurs joueurs offensifs sur le côté droit. On en revient avec certains débats qu'on avait aussi avec le FC Porto, et je pense que ça a un peu préjudicié, même largement préjudicié Benfica en première mi-temps.
Mais je pense qu'avec Gilberto, on aurait été moins en difficulté qu'on l'a été.
Peut-être.
C'est ce que j'allais dire avec le parallèle avec le FC Porto, Kevin, du coup je te lance dessus, c'est que Sergio Conceição met son meilleur joueur latéral droit, en l'occurrence de Pepe, et Roger Smith fait la même chose avec Ornes. Est-ce que c'est privé, comme a dit Mathieu, de quelqu'un qui est capable d'être dangereux dans le but adverse, alors que tu peux très bien adapter, enfin, que tu as des joueurs à ce poste-là en tant que latéral, et même si ces joueurs sont super forts et peuvent s'adapter partout, c'est quand même dommage de se priver d'une arme offensive.
Ouais, c'est dommage, surtout que c'est des joueurs qui ont une qualité des techniques au-dessus de la moyenne et qui peut te faire un peu la différence dans la partie haute du terrain. Après, c'est vrai que défensivement, c'est toujours plus compliqué pour ces joueurs-là parce qu'ils n'ont pas vraiment de repères à ces postes-là. Donc, en plus, quand on connaît le jeu du Sporting au niveau tactique, ça demande quand même pas mal de permutations, de communication sur le côté parce que c'est souvent des joueurs qui vont rentrer à l'intérieur. Du coup, peut-être Orsens ne va pas savoir si c'est à lui de le prendre ou si c'est au milieu de le prendre. C'est aussi tactiquement, c'est assez compliqué, surtout défensivement. Et on l'a vu aussi sur ce match parce que Nuno Santos était un peu libre de faire tout ce qu'il voulait. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des joueurs qui peuvent apporter beaucoup offensivement et qui dépannent défensivement, mais qui sont moins bons défensivement. Du coup, tu te prives de leur qualité. Donc, c'est un peu une double sanction, mais bon, il faut faire avec. Et dans une saison, tu as toujours des phases où tu es moins bien, où tu es obligé de mettre un joueur qui peut répondre présent à n'importe quel poste, à l'image du PP et de Orsnes. Et tu es obligé de les mettre à ces postes-là pour pouvoir compenser les manques que tu as à ces postes-là, ou blessures, ou mauvaises performances des joueurs qui jouent en tant que latéral.
Ok, garçon, donc on va passer directement au match. Je ne vais pas faire mi-temps par mi-temps parce qu'au final, on pourrait le faire tellement il y a eu deux mi-temps différentes où le Sporting a totalement dominé son sujet et son adversaire lors de la première période. Et ensuite, ça s'est inversé, même si j'ai trouvé la première mi-temps du Sporting bien plus impressionnante que la deuxième mi-temps du SLB. J'ai trouvé vraiment la première période du Sporting très, très, très compétente. Mathieu, on a vu ici peut-être des coachs qui sont différents aussi par leur approche tactique. On a vu un Ruben Amorim qui a très, très bien préparé son match, un Roger Smith peut-être un peu moins, mais vice-versa. On a vu un Ruben Amorim qui, encore une fois, a eu une micro-tactique assez peu compétente avec des changements très compliqués à comprendre. Mais au contraire, un Roger Smith qui a tout de suite lu les problématiques du match que lui a imposé Ruben Amorim. Donc voilà, deux entraîneurs qui ont préparé le match de façon différente, mais aussi qui ont réagi de façon différente au match. Et c'est là que je voulais aborder aussi ce sujet avec toi. Ça nous a donné un match, agréable à suivre en tant que spectateur.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le Sporting fait la mi-temps du Sporting est plus impressionnante que celle de Benfica. Pour moi, limite, Ruben Amorim fait le match et défait le match à lui tout seul. Il le fait parce que son plan A reste un plan A hyper efficace, vraiment. Dans ces genres de matchs-là où tu vas pas affronter un bloc bas, bien sûr, comme Benfica qui allait quand même un peu te chercher et qui allait quand même un peu par séquence te presser, cette équipe là lorsqu'il faut ressortir, elle était très bonne comme d'habitude, des choses qu'on voit depuis 3 ans mais qui fonctionnent toujours. Et si tu veux pas réellement t'adapter à cette façon de sortir, à cette façon quand tu rassembles de très bas, d'avoir là c'était Franco-Israël entre les centraux et d'avoir parfois un Coates en tant que milieu défensif, d'avoir des Morita et des Ugarte qui vont parfois chercher des ballons sur la largeur pour profiter des fixations très haut de Nuno Santos et de Ejgag hier, des choses qu'on voit depuis 3 ans et qui fonctionnent toujours dans ce genre de rencontre là. Et c'est vrai que c'est ce qui montre aussi un peu qui fait que le Sporting déçoit quand même très rarement dans ces grandes rencontres de cette saison, finalement, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue Europa avec cette élimination d'Arsenal et les deux bons matchs finalement face à la Juve et face aux grands, à part les matchs face au top 4, à part les matchs des défaites face à Porto qui sont pour moi des défaites pas forcément méritées. Et pourtant il y a eu un 3-0 en début de saison, il y a eu la victoire face à Braga 5-0, il y a eu finalement tu perds pas 2 fois face à Benfica. Donc c'est une équipe qui dans ce genre de rencontre est très compétente et qui a totalement surpassé Benfica en premier temps. C'était vraiment très très fort. On sait que le Sporting est fort sur la largeur, mais là c'était voilà, cette difficulté pour les latéraux. Alors Orsnes, Gilberto, enfin je pense que tous les latéraux droits que t'aurais mis auraient des difficultés face à autant d'espace et autant de surnombre sur les côtés entre Nuno Santos et Pedro González à l'intérieur. Et
la preuve, de l'autre côté, ils étaient en difficulté aussi, hein. Et
non, mais même Grimaldo est en difficulté, hein, bien sûr. Grimaldo est un bon, bah, ouais, de l'aspect défensif de Grimaldo, mais voilà, Roger Schmidt, par rapport au fait que son équipe n'est pas actuellement dans la meilleure période en termes de confiance, c'est même pas du tout adapté, n'a pas adapté sa composition. À partir de là, on s'est retrouvé avec un Sporting qui a récité sa partition et qui l'a fait de vraiment premier temps de fantastique manière, faut le dire. Et ne voulait voilà, c'était l'honneur d'un club qui ne voulait pas que son rival éternel soit champion sur sa pelouse, qui peut se comprendre. Ensuite, la deuxième mi-temps, pour moi, c'est lui qui défait le match. C'est lui qui décide de baisser drastiquement ses lignes. C'est lui qui décide de changer Marcus Edwards dès la 53e minute de jeu.
Trop tôt
dans le match. Tu vois, je peux comprendre l'entrée de Paulinho, peut-être parce qu'il sentait qu'il y avait une pression de la part de Benfica dans la deuxième mi-temps et qu'il ne voulait pas que ce temps fort dure trop longtemps.
Oui, il a expliqué ça, l'entrée de Paulinho.
Et le Paulinho peut te garder des ballons, peut faire en sorte que tu peux ressortir et chercher ses transitions. Enfin, c'est attaque rapide. Et donc, ça pouvait se comprendre. Mais il ne fallait pas sortir Edwards. Edwards était faisait une très bonne première mi-temps. Il était un joueur qui était intenable. Hein. C'est-à-dire que Grimaldo ne savait pas si c'était à lui d'aller chercher. Antonio Silva, Otamendi ne savait pas s'il fallait chercher. Jean Neves avait du mal à aller chercher parce que dès que tu le trouvais dans son dos, c'était très compliqué. Donc voilà, c'était vraiment. Amorim a fait la première mi-temps et a défait en décidant de concéder un temps fort de Benfica de 45 minutes. Et face à une équipe qui a quand même certaines certitudes dans le jeu, qui s'est quand même plutôt bien joué au foot, elle l'a quand même montré cette saison, qui a quand même quelques capacités dans la surface adverse, et avec des choix forts aussi, parce que les buts de Benfica rentrent après l'entrée de Moussa, après les sorties de Rafa, de João Mario, donc il y a eu des choix forts. est surprenant, mais ce qui est un peu dommage, c'est que tu fais des choix forts après avoir lâché ta première mi-temps, donc c'est un peu dommage, mais Ruben Amorim, pour moi, a défait le match en assumant de concéder un temps fort de 45 minutes plus le temps additionnel dans cette deuxième mi-temps qui n'était pas là, par contre, pas forcément digne d'une équipe qui devait s'imposer à domicile pour croire encore au podium.
Ok, Kevin, est-ce que toi, bah, je suppose que tu étais supporter du Sporting hier, comment as-tu trouvé le match de ces deux équipes qui, comme d'habitude, on peut s'attendre à des matchs un peu plus hachés où le jeu prend place, ou l'enjeu plutôt prend place sur le jeu, mais au final, pas du tout. On a vu quand même deux équipes très compétentes avec deux périodes bien distinctes. Mais comme l'a dit par exemple Roberto Martinez tout à l'heure, on a vu un bon rythme, de l'intensité, une bonne qualité technique, ce qui est parfois rare dans nos plus grands matchs, où vraiment ce match-là a été une très bonne pub pour le football poursuivi.
T'es en train d'insinuer que quand c'est le FC Porto, il n'y a pas de grands matchs parce que ça joue pas au foot. Non, en vrai, c'est si, franchement,
ça joue moins.
Ça joue moins parce qu'il y a plus de fautes, on va dire.
Parce qu'il y a plus d'intensité de bagarre,
au niveau des fautes, etc. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on est les plus forts. mais oui, c'est une très belle. Ouais, c'est ça. Ça passe par là. Mais oui, c'est une très bonne pub pour le football portugais, surtout que j'ai trouvé surtout le Sporting très très fort sur sa première mi-temps. Je ne sais pas si c'est peut-être dû au fait que Benfica n'était pas rentré dans son match, mais tout ce qu'il faisait, c'était propre au niveau tactique déjà. Les ressorties de balles étaient vraiment spectaculaires. Franchement, j'en ai compté beaucoup, beaucoup qui étaient très propres techniquement, qui c'était presque du haut niveau, tant c'était très bien fait techniquement. Surtout sur le côté gauche, où j'ai trouvé que la compatibilité entre Inacio et Nuno Santos était vraiment très cohérente. Ça se trouvait toujours à l'intérieur du jeu. Surtout les passes de Nuno Santos très verticales, trouvaient toujours preneur et faisaient vraiment du mal à Benfica. Et après, on ne peut pas dire grand-chose de Benfica sur la première mi-temps, parce que j'ai trouvé
amorphes. Il n'y a rien à dire.
Amorphes, ils n'ont rien proposé. Et je pense que le score de 2-0 est assez flatteur pour le Sporting, parce que si Pedro Gonçalves met cette occasion là juste devant les buts, ça va être encore 3-0, voilà. Mais après, heureusement que le Benfica s'est bien repris et ça a donné un bon match. Mais ouais, après, Mathieu a tout dit, hein. Le Sporting a baissé ses lignes, a un peu refusé de jouer, a fait sortir les meilleurs joueurs entre guillemets pour faire rentrer des joueurs qui sont un peu moins bons. Et c'est un peu la faiblesse aussi du Sporting cette saison, où leur banc est un peu de moins bonne qualité que les 11 titulaires. Et ça s'est ressenti parce qu'ils ont défendu. Et en fait, tout connaisseur du football savait qu'ils allaient se prendre un but dans les dernières minutes à force de défendre, parce qu'on sait très bien que c'est très dur de tenir un score. Mais le Benfica a bien réagi. Et en vrai, ça un peu avec la mentalité aussi. Je le répète toujours, mais la mentalité, ça va. Ça fait beaucoup dans un match. Et on l'a vu, le Sporting, dès qu'ils ont. Benfica, dès qu'a mis un peu d'intensité, d'envie, de mentalité à se battre sur les duels, etc., bah, ça fait toute la différence. Et au final, ils ont marqué dans les derniers instants grâce à ça un peu. Donc voilà.
Ok, Phil, je pense que tu as beaucoup de choses à dire, à redire sur cette deuxième période. Parce qu'après un mi-temps, comme on vient de le dire. Vous avez refusé de jouer, peut-être que il y a une sorte de trop grosse pression, jouer avec la peur, comme trop souvent cette année. Enfin, trop souvent cette année, surtout contre les grosses équipes, parce qu'il faut le dire aussi, le SLB a été mauvais contre les grosses équipes. C'est 9 points ou 8 points pris pour 18 possibles, ce qui est pas du tout quand tu veux. Enfin, généralement, au Portugal, on gagne les championnats en gagnant les confrontations directes, et là, ça n'a pas été le cas parce que tu es tombé sur un Porto qui a perdu beaucoup de points au passage, mais en route. Mais là, voilà, 8 points pris sur 18 possibles, c'est trop peu pour un club comme Benfica. Et hier, on a vu, Phil, lors de la première mi-temps, tous les symptômes d'un Benfica qui joue avec la peur, qui est aussi identifié par des joueurs qui sont là depuis trop longtemps, Grimaldo, Villas-Boas, etc. Ceux qui sont là depuis, ceux qui ont connu un peu toutes les défaites et un peu
la colonne vertébrale, quoi.
Le loser, on va dire, depuis 4 ans, qui ne gagnait aucun moyen, ils sont encore là et eux, justement, imposent cette mentalité de perdant, on va dire, et on l'a ressenti en première mi-temps. Et ensuite, tu as la chance cette année d'avoir un coach de haut niveau qui te permet ensuite de te remettre dans le match et de faire d'obtenir ce match nul.
Ouais, mais c'est aussi à, enfin il faut c'est à nuancer aussi parce que enfin c'est lui aussi qui nous met dedans en première mi-temps. Tu vois, je vais rejoindre ce que disait Mathieu, mais je trouve que les deux ont fait la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plan B de Benfica est meilleur que le plan A, et ça s'est vu hier. Et le plan A de Amoury était meilleur que le plan B. Donc Amoury commence son match avec le plan A, nous aussi, sauf que notre plan A est complètement prévisible et en plus ne tient pas la route face à une telle adversité. Du coup, en deuxième mi-temps, on passe sur un début de plan B en passant Orchness un peu plus haut. Et tout de suite, ça fluidifie notre jeu. On a un latéral qui prend la profondeur et qui permet aussi d'élargir un peu notre jeu, donc d'apporter une solution en plus. Et mine de rien, on est tout de suite transfiguré, quoi. Parce que pareil, ça permet aussi à Neres d'être un peu plus, de trouver un peu plus dans les petits espaces et de combiner. Tu sens qu'on arrive avec une autre mentalité, qu'on a un peu plus faim en deuxième. Donc je pense qu'il a dû resserrer un petit peu les vis. Le problème, c'est qu'on rate complètement la première mi-temps. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les garçons sur le fait que notre première mi-temps est plus mauvaise que leur deuxième, tout simplement parce qu'en première mi-temps, à part peut-être Otamendi et un peu Antonio Silva, tu retiens personne chez nous. Alors que chez eux, même dans des moments de doute, Ugarte a été le meilleur sur le terrain.
Il a été exceptionnel hier.
Morita aussi, à moindre mesure, mais Ugarte, il était en détection hier. Donc, quand il fait son râteau et qu'il passe entre deux mecs, quand il fait son reste solitaire où il efface 3-4 joueurs, je dis, mais.
C'est dommage qu'il fait une mauvaise passe suite à Paulinho.
Oui, après, ouais. Mais après, je pense que c'est l'excitation. De toute façon, même une bonne passe à Paulinho, c'était pas dit que. Et eux, il y a eu des moments où ils étaient encore bons, tu vois, en deuxième, parce que le milieu était contrôlé. Maintenant, oui, je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Avec le changement, alors je ne sais pas si Edouard était vraiment volontaire ou si c'était un coup ou quoi, je t'avoue que ça je ne sais pas. Je sais que l'entrée de Paulinho, il a expliqué par le fait que en fait, Otamendi à ce moment-là gagnait tous les duels de la tête et qu'il voulait rajouter une présence un peu plus, enfin un point de fixation tout simplement pour pouvoir gagner les ballons de la tête. Et je suis persuadé, si Edouard n'est pas blessé, que Trincao reste sur le terrain parce qu'il a marqué le but. Parce que sur la première mi-temps, Edwards, moi je le trouvais plus dangereux et même intrinsèquement, tu sais qu'il y a plus de danger qui peut provenir des pieds d'Edwards que de Trincao. Donc, en tout cas, aujourd'hui, quoi. Donc, quand je l'ai vu sorti, j'étais assez surpris. Maintenant, s'il a été touché, ça se comprend. Mais si c'est tactique, grand bien lui fasse. Hein. Même la sortie de Guy, bon, apparemment, il était moussé physiquement. Mais quand je vois Bellerin rentrer, je me dis, ça sent bon cette histoire. Bon, après, il a failli nous tuer quand même sur une action. Bon, oui, mais il envoie Grimaldo à Leverkusen. Mais bon, au final, je trouve qu'on s'en sort bien. On s'en sort très bien.
Oui, clairement. C'est, tu fais top 10 de nul comme ça. Ça montre aussi une certaine. Un changement de mentalité qui est en train de mettre en place par Roger Smith aussi. Je pense que ce match-là, l'année dernière, tu ne le gagnais pas. Ou même il y a 6 mois, je ne pense pas que tu le gagnes, ça se trouve.
Il n'a pas gagné, Alexandre.
Tu le perds, surtout, je pense. Oui. Tu le perds. Pardon.
Je vois ce qu'il veut dire. Il ne faut pas aller trop loin, quand même.
Je vois ce qu'il veut dire. Parce qu'au final, au vu du scénario, c'est presque. C'est presque comme.
Ouais. Enfin, t'es.
Non, mais je suis persuadé que 45 minutes. Ce match. Enfin,
oui, mais si tu en prends 3-4 en première mi-temps, c'est.
Je suis d'accord avec ce que dit Alex, mais bon.
Tu vois, il a instauré une sorte de haine de la défaite que n'ont pas les joueurs, en fait, qui est trop gangrénée par les Vlachos Dimos, Grimaldo, Rafa, tous ces joueurs-là.
Qui son image.
C'est ça. Et je pense que c'est un petit écrémage qui fait un désajustement qui doit être fait cet été pour vraiment avoir une équipe à son image. Mais voilà, comme tu l'as dit aussi, il est totalement fossile de cette première mi-temps totalement loupée. Mais le fait de ramener au moins le poids du match nul et de refuser la défaite, c'est déjà un bon signe, rien que pour la saison prochaine, par exemple. Les garçons, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le plan collectif, ou on peut passer au plan un peu où des joueurs un peu plus individuels, enfin à faire des mentions un peu plus individuelles notamment Dugarte, de Silva, etc. Des joueurs qui ont éliminé ce match-là, ou voulez dire d'autres choses un peu plus sur le point collectif, sur le point tactique ou autre, ce qui s'est passé durant tout ce match-là?
Non, mais peut-être juste me rajouter que, enfin, que parce que c'est vrai que Philippe a parlé de plan B en mettant Orsnes et en faisant entrer balle à mi-temps. J'ai envie de dire c'est le plan A qui arrive avec 45 minutes de retard, surtout parce que Orsnes a démontré sur c'est lui qui marque, mais globalement c'est sur le début de la deuxième mi-temps jusqu'à son but, c'est le joueur qui impulse quelque chose de nouveau à cette dynamique collective offensive de efficace. Je le trouve un peu seul, parce que c'est vrai que finalement Ramos, Rafa avant qu'il sorte, même Neres qui fait tout le match, mais qui je n'ai pas trouvé que Neres ait fait un grand match. Jean-Marie sortait à la mi-temps et de manière assez logique, j'ai vu des gens surpris quand même, mais j'ai pas compris vu la première temps que faisait Jean-Mario.
Surpris que ça ait pris 45 minutes.
Oui, donc le plan est arrivé trop tard. Après, les changements sont courageux, faut le dire. C'est vrai que ça a été mettre Moussa plutôt que d'habitude, d'avoir sorti Rafa et mettre Guedes. C'est vrai que on n'a pas non plus senti un Benfica hyper dominateur, enfin dominateur si, mais sans se créer non plus une vague d'occasion sur toute la deuxième mi-temps. Donc globalement, je trouve que le Sporting méritait de gagner, que le but à la 96e est quand même chanceux vu le cafouillage que ça donne sur un coup de pied arrêté. Pourquoi Philippe globalement, je trouve que le Sporting méritait quand même de remporter cette rencontre.
Ok, les gars, est-ce que vous avez, on va faire comme d'habitude, un peu un top et un flop.
Je pense qu'on est tous unanimes.
Regardez, à ce qu'il paraît, il y avait trois recruteurs de Chelsea. Et je pense qu'ils ont été son nom. Ils avaient déjà son nom sur le calepin, mais là, je pense qu'il y aura une offre qui va arriver sur le bureau de Lavandas. Parce qu'il a été tout simplement exceptionnel.
Il y a Clairefontaine hier. C'est incroyable.
Ça démontre que, la dernière fois, on me posait la question si je préférais Ugarte à Palinha. Et j'ai beau être assez nationaliste et chauvin, je pense qu'Ugarte est déjà plus jeune, mais aussi est bien plus complet. Et je pense qu'il va faire beaucoup de mal à. Enfin, son départ va faire beaucoup de mal au Sporting. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Non, mais c'est deux styles différents aussi.
C'est deux styles différents, mais Ugarte, je trouve que Ugarte sait faire
ce que Palinha sait faire et pas l'inverse. Palinha ne sait pas
forcément faire ce que fait Ugarte, je pense.
mais parce qu'il est, il est complet. Il est complet, Ugarte. C'est un sacré spécimen. Hein. Il faut souligner aussi le nez qu'a fait Marlican. Alors le nez ou la main de Georges Mendes.
Ouais.
Mais au final, tu vois qu'il y a des jolis joueurs qui passent par Famalicão, que ce soit par la main de Mendes ou autre. Mais que ce soit Pote, que ce soit Rasic, que ce soit Tony Martinez à moindre mesure, que ce soit Ivan Raime qu'on voit cette année, Colombato aussi. Donc il y a des joueurs mignons à aller chercher chez eux, notamment Raime cette année. Comme quoi on peut venir pêcher dans les autres clubs au Portugal. Il faut juste bien les travailler, quoi. Après bon, il faut faire le tri, parce que t'as des Ugarte, t'as des Bouloukos, t'as bon. Faire les bons choix.
Kevin, est-ce que tu as un mot à dire sur la prestation d'Ugarte qui a éliminé ce match-là?
Vous avez dit un peu tous les adjectifs qualificatifs pour ce joueur, parce que après, je pense qu'il faut qu'il step up un peu au niveau technique, parce que je pense qu'au niveau, on sera un peu plus exigeant avec lui à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur tout le reste, je pense qu'il n'a rien à envier à beaucoup de grands joueurs qui jouent dans les top championnats européens, parce qu'il a un peu tout ce qu'il faut à un milieu de terrain. L'agressivité, la qualité de passe, franchement, il sait tout faire, quoi, avec le ballon. Après, il est un peu moins, il a un peu ce côté pas décisif qui pourrait peut-être avoir un peu plus. Même si c'est pas un peu le rôle qu'on lui demande, mais peut-être avoir pu se développer plutôt cette qualité de passe dans le dernier tiers, peut-être pour être un peu plus décisif. Mais franchement, hier, son match, c'est classe mondiale. Hein. Je pense qu'il a maîtrisé le milieu de terrain à lui tout seul, même si c'est vrai que Morita l'a très bien aidé aussi au milieu de terrain, mais il y avait lui et les autres sur ce match. Hein, c'était impressionnant.
Mathieu, quelque chose à compléter sur...
Ouais, je trouve que... Enfin, Morita fait un bon match hier, en premier temps, surtout dans cette capacité à trouver les bonnes zones pour sortir de la pression et pour renverser, surtout à l'opposé, souvent sur les gars. Et ça a fait mal, ces renversements de jeu, comme souvent depuis avec le Sporting à l'opposé. Mais malgré tout, entre... Alors, Jean Neves, c'est pas son meilleur match, il est encore jeune, hein, mais entre Jean Neves, Chiquinho et Morita au milieu de terrain... On avait quand même l'impression d'avoir un grand frère et ses petits frères à côté quand même. On avait un joueur qui était prêt pour aller quand même chercher déjà quelque chose de, un top championnat et les autres qui sont encore en train de soit de progresser, soit à leur niveau et devraient être sur le banc comme Chiquinho. Mais ouais, fait un match très, très complet. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin qu'on sent que c'est un joueur, on le savait, hein, que c'est un joueur qui partait déjà avec des bases, entre guillemets, défensives plus fortes que des bases dans la capacité avec ballon, dans la capacité de genre organisation, dans la capacité sous pression. Que sous pression, je trouve qu'il a beaucoup progressé, mais que oui, dans certaines décisions, dans certaines passes, et notamment celle sur Poligno, je pense que elle est significative, hein, de malheureusement de mal ajuster cette dernière transmission sur une phase de contre. Donc voilà, mais c'est un joueur qui est encore très jeune, qui a que 23 ans, qui a démontré qu'il était capable de progresser assez vite sur ses points faibles, et donc qui, oui, est peut-être le grand actif du Sporting en termes de valeur aujourd'hui, par sa jeunesse, par ses caractéristiques. En Ligue des Champions, sur la phase de poule, c'était le joueur qui récupérait le plus de ballons. Dans les stades défensifs, c'était totalement en train de corroborer vraiment ce qu'on voyait sur le terrain d'un point de vue défensif. Donc ouais, c'est un joueur qui permet d'avoir ce contrôle au milieu de terrain et qui permettait aussi cette année d'avoir, hein, parfois le milieu de terrain à côté de lui, que ce soit Morita ou que ce soit Pedro González quand il descendait un peu, de donner un peu plus de liberté, de créer un peu plus de fluidité au milieu de terrain pour permettre la progression dans les moments d'organisation du côté du Sporting. Donc dans vraiment le joueur clé du match d'hier et de très loin l'un des meilleurs joueurs du Sporting cette saison.
Mention spéciale également à Franco Israël. J'ai trouvé que si le Sporting a été excellent en première période, c'est notamment grâce à lui, grâce à son jeu au pied. Et on voit vraiment qu'il y a un travail qui est fait de la part de Vital, qui est l'entraîneur des gardiens du Sporting, qui est vraiment en train de faire progresser Franco Israël à vitesse grand V. On l'avait vu auparavant, notamment contre Marseille et autres, où tu te sentais un peu fébrile sur différentes compétences techniques, etc. Et hier, je le trouvais vraiment très serein. Pour un match comme ça, de cette envergure, avec cette pression-là, avec cet enjeu-là, j'ai trouvé très bon dans ses sorties, j'ai trouvé excellent jeu au pied. J'ai trouvé qu'il était plus serein qu'Adan. Adan est catastrophique dans les airs. Adan est
surtout quand tu regardes en face.
Et j'ai trouvé que si le Sporting a pu sortir aussi facilement le ballon, c'est notamment grâce à la qualité au jeu de pied de Franco Israël, et je voulais mettre aussi en avant. Parce que si le Sporting veut éviter de refaire une saison comme ils ont fait cette année, parce que c'est plus qu'un échec, c'est une saison honteuse pour un club comme ça, bah ça passe par changer le gardien, tout simplement. Et je ne suis pas sûr que Ruben Amorim souhaite en arriver là, mais je pense qu'il n'aura pas le choix, parce que sans un gardien qui est capable de jouer au pied, maintenant, en 2023, ça devient compliqué. On le voit avec le Sporting cette année, on le voit avec Rui Patricio, avec la Roma, Vlacho Dimos, voilà. Donc on voit que c'est l'ère moderne demande un gardien qui est capable de jouer au pied, et là je voulais mettre en avant du coup Franco Israël, qui en plus a été très bon dans ce qu'on demande d'un gardien, c'est faire des arrêts, soulager sa défense, et je trouve qu'il a bien répondu présent. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur Franco Israël, on peut passer au flop?
Juste l'arrêt là où il capte la frappe de Horchness,
oui.
De l'autre côté il y a but, hein. Où il y a but, ou alors c'est repoussé mais c'est pas capté, je te le dis,
ou ça va en lucarne aussi, déviant en lucarne comme le but.
Un
autre top.
Mais ça marche avec Diogo Costa aussi. Hein. Si Porto est là où il est, c'est par rapport à ses arrêts.
Mais si tu fais un bilan du Sporting, de toute façon, c'est la qualité dans la surface. Hein. Clairement, c'est.
Oui, bon, on en a déjà parlé aussi, mais c'est dans les deux surfaces d'ailleurs.
Oui, dans les deux surfaces, mais oui. Non, clairement, le Sporting peut dire merci à Adan.
Merci à Adan.
Merci à Adan de ne pas gagner des champions l'année prochaine. Mais c'est en termes de direction sportive, c'est ça. C'est ce qui est dommage, c'est que l'année dernière, tu vois que en termes de fin de cycle, le Sporting arrive à comprendre clairement que Fedal, 2 ans, c'était bien, et qu'on sentait déjà que sur la deuxième saison, c'était voilà, que c'était un joueur qui avait super formé lors de la saison du titre, donc que le cycle devait être fermé. Ils l'ont fermé avec une deuxième saison à plus de 80 points et à se battre avec Porto Limite jusqu'à l'avant-dernière journée pour le titre. Donc globalement, c'était bien d'avoir fermé le cycle avec Fedal. Ils auraient dû le faire avec Adan aussi. Aujourd'hui, tu as des indicateurs qui te permettent de savoir que Kadan était un gardien qui superformait aussi un peu et qui, cette année, vraiment, en termes de qualité dans la surface, t'as coûté énormément de points parce qu'en termes de volume de création offensive, enfin, de volume de création concédé en termes d'occasion, le Sporting a concédé autant que Porto sur toute la saison et pourtant, regardez le nombre de points d'écart qu'il y a. Donc, c'est en grande partie, pas que en partie d'Adan. Adan n'est pas le seul fautif, mais est un des, malheureusement pour lui, un des grands fautifs de la saison du Sporting.
Il y a un flop. On va passer, on est déjà à 35 minutes si on fait tous les flops côté
droit. Je voulais juste souligner le bon match de Gonçalinas. Et de Mandé aussi, les deux. Mais j'ai trouvé surtout Gonçalinas au niveau de la relance. Je l'ai trouvé vraiment très propre. On sait que c'est sa qualité première. Mais franchement, sa première mi-temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment très propre. Hein. Franchement, je l'ai trouvé. Certes, il y avait des passes assez risquées. Mais quand c'est souvent passé et ça cassait quand même des lignes assez importantes dans le terrain et ça quand même ça permettait au Sporting de ressortir proprement la balle et de pénétrer le Benfica dans la zone adverse et d'aller plus rapidement vers l'avant ou de créer des brèches. Donc j'ai bien aimé son match en tout cas.
Il y a un flop, Phil, je commence par toi. On réfléchit bien.
Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Côté Sporting, je te dirais pote parce que pour moi, c'était le seul. C'est le seul le moins.
Un peu moins bien. Ouais.
Le Coates, peut-être.
Ouais.
Pour le but.
Surtout pour le but. Tu sais qu'après le match, j'ai entendu des gens parler de Diomandé comme flop parce qu'il est dans les deux buts de Benfica. J'ai trouvé ça sévère quand même.
Il se relève.
Ouais,
pas,
mais enfin, sur l'ensemble du match, je trouve que c'est sévère.
Sur l'ensemble du match, c'est en 2003, il a 20 ans. Peut-être 19 ans, mais encore c'est 20 ans.
Donc, ils sont partis le chercher à MAF. Les gars jouent pas.
Les journaux parlent beaucoup d'Antonio Silva, etc., mais ils oublient que Diomandé a le même âge. Qu'il y a une trop grosse propagande qui est faite sur Antonio Silva. Qui n'est pas faite pour Diomandé. Et Diomandé est extraordinaire, il est capable de jouer à tous les postes au sein de la défense. Et vraiment, le coup réalisé par Mafra et ensuite du Sporting, c'est un joueur qui a été acheté peut-être 9, 10 millions, 11 millions maximum, mais qui repartira pour sa clause, je pense. Donc, c'est une super affaire du Sporting et je trouve qu'on en parle très peu.
Et de notre côté, y en a beaucoup. Le trio, c'est catastrophique. Rafa, moins que les deux autres, quand même. Il a essayé de bouger un petit peu et tout, mais c'est très, très compliqué vu qu'il n'y avait personne pour s'associer à côté. Même ceux qui d'habitude sont bons, donc Antoine Silva, Jornev, Neres, ont été moins bons. Chiquinho, horrible. Vlaco Dimos, fidèle à lui-même. Mais je dirais Jean-Mario, que j'ai trouvé repli défensif, zéro, dans les pieds. Genre, le gars, il avait le ballon, ça le sifflait et il paniquait.
Non, mais c'est bien ce qui est bien avec Jean-Mario, c'est que du coup, la saison dernière, il te fait jusqu'à.
Pas. Un mois.
Voilà, ouais. Il te fait un mois. Là,
il t'en fait 6, 7.
Là, il a poussé jusqu'à mars et là, l'année prochaine, peut-être, il va te faire une saison complète. C'est pas sûr.
Non, je pense que c'est là, on est arrivé. Là, il n'y a plus de papier, là. On est au bout du rouleau. Là, c'est fini. Là, ça y est. C'est... Donc, merci bien, mais ciao.
Mathieu, t'as un flop à...
Il y en a beaucoup. Vous allez me dire que je m'acharne, mais Ramos, je trouve que c'est hyper compliqué. Hein. Après, je chambre un peu, mais en disant que Moza a fait en 10 secondes ce que lui a pas réussi à faire en 60 minutes, mais c'est un peu le cas. Enfin, je suis désolé. Hein. Non, on est d'accord, Philippe. Alors, on est d'accord.
Ah oui, complètement. Voilà, donc, mais déjà,
finalement, il a fait que deux bons mois.
Cette année. Premier ballon, il fait une bonne déviation, chose qu'a même pas fait Ramos. T'abuses pas.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alex sur Twitter aujourd'hui, que si Moussa avait 3 ans de moins et s'appelait, aurait un nom, serait né au Portugal, enfin je sais pas, la propagande qu'on ferait pour lui, c'est un peu comme Diomandé. Enfin,
s'il s'appelait Pedro Moussa, ça passerait.
Pedro Moussa, peut-être que ça passerait. Non mais je trouve que vraiment, je trouve qu'il y a quand même comme peut-être techniquement, peut-être que si Ramos est dans un super jour, techniquement, oui, il est peut-être meilleur. Mais aujourd'hui, à l'instant T, je trouve. Enfin, dites-moi où est-ce que Ramos, d'un point de vue de la compréhension du jeu, d'un point de vue des remises, d'un point de vue du jeu de haut but, d'un point de vue des déviations, est-ce qu'il est.
On a un commentaire qui nous dit quand tu Ramos, quand tu es obligé de le mettre quand tu as Moussa sur le banc. Bah non, enfin pour moi Moussa est meilleur.
Bah, pour moi c'est du statut. C'est du statut en fait. C'est Ramos, Forlan, ouais, Benfica, jeune, en sélection aujourd'hui en plus, triplé la Coupe du Monde. Là, à la limite, Moussa pouvait plus prétendre rien. Enfin, pour moi aujourd'hui, je suis désolé, Moussa est un joueur.
Et tu l'as souligné avec Arthur Georges et Amouine, c'est que comme tu l'as dit sur un tweet, Arthur Georges, pareil, à 10 ans de moins, il a une carrière d'ancien pro un peu plus international, etc. Tu as une meilleure propagande. Et c'est le problème de ce pays-là. C'est ouais, que...
Il y a quand même une énorme différence de propagande entre Arthur Georges et Ruben Amorim. Amorim, il avait gagné un match 7-1 face à Bélénien, ça, tout le monde en parlait à l'époque. Il avait gagné une fois le Porto au Dragon, tout le monde en parlait. Enfin, il y en a un, il a fait un podium, il a en finale la Coupe du Portugal. Enfin, je sais, il y a pas le... Bien sûr qu'après, c'est des billets qui sont instigés au Portugal depuis longtemps. Mais je suis désolé, pour moi, Moussa est un bien meilleur attaquant que Ramos aujourd'hui. Oui. Je le dis clairement, je suis désolé. Hein,
on l'a dit en novembre.
Non, mais c'est vrai que
marquer des buts.
Ouais, non, mais tu mets Moussa toute la saison avec cette équipe-là qui performait, qui carburait à fond avec les trois derrière qui étaient extraordinaires pendant presque 6-7 mois. Je pense vraiment que Moussa met plus de buts que Ramos. Ramos, il en a mis 17 en championnat. Enfin, 17 encore. Pour moi, c'est que 17 dans ce Benfica-là qui est un Benfica qui carburait complètement pendant plusieurs mois. Donc, je suis désolé, mais pour moi, voilà, le côté un peu trop formé au club, le côté un peu portugais, le côté un peu nationaliste prend la place sur les vraies qualités du joueur qu'est Moussa. Et pourtant, Moussa a joué à Boavista et croate, donc j'ai pas non plus des raisons énormes de kiffer le joueur d'autre manière que d'un point de vue footballistique. Je trouve que c'est un super attaquant et que c'est un bien meilleur attaquant que Ramos aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, son agent, l'agent de Moussa, avait fait une déclaration en janvier où il avait dit que si Moussa avait un peu plus de temps de jeu, il aurait... Il a certainement eu plus de buts que Ramos. Oui, et le problème, c'est qu'on avait trouvé la décla un peu malvenue, parce que c'est en plein milieu de saison, après le mondial, tout ça. On s'est dit, bon, c'est pas top pour le vestiaire, mais c'est la vérité. Et nous, on l'a dit à partir du mois de novembre, parce qu'on était persuadés de ça.
Et j'espère pour lui, j'ai beaucoup d'estime pour Benfica, mais j'ai beaucoup d'estime pour Moussa. Et ça me ferait chier pour lui de le revoir une saison sur le banc l'année prochaine. Enfin, pour moi, il mérite de jouer titulaire dans un club qui joue le
surtout qu'il rentre parfaitement dans les caractéristiques de ce que demande Schmidt à un attaquant. Pour ça que pour moi, même si
non, il y a des choses Ramos... qui sont de cette passée de Neres pendant pas mal de semaines aussi dans l'histoire de Schmidt en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir ce genre de délié, c'est voilà. Voilà, c'est pas pour dire quoi, parce qu'on nous a un peu reproché de faire que les louanges de Schmidt pendant plusieurs mois, ce qui était mérité. Là, il y a des choses, voilà, j'ai du mal à les comprendre.
Ouais, globalement, c'est un problème de statut. Hein.
Pour moi, c'est un peu un problème de statut. Et voilà, et après, c'est aussi un problème que quand les joueurs performent, tu vois, encore hier, tu vois, Orsnes fait quoi ? Deux bons matchs arrière droit. Au départ, c'est pour dépanner. Tu laisses jouer dans un match face au Sporting. Moi, j'en ai pas la preuve, bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est resté sur la continuité d'Orsnes qui avait du rythme et qu'on commence à mieux comprendre le poste arrière droit. Et s'est dit que ça va passer face au Sporting, alors qu'Alexandre Bas, je pense qu'avait largement 60 minutes dans les jambes, au minimum. Donc, c'est aussi un peu ce côté-là qui est un peu dommage. Quoi.
Ah, il est revenu depuis deux matchs.
Oui. Et puis, il a peut-être pas 90 minutes, tu vois, Alexandre Bas, Philippe, mais je pense qu'il en a 60, tu vois. Mais bon,
je suis d'accord.
Donc flop, okay. Schmidt aussi.
sur le match. Est-ce que tu as un flop à mettre en avant sur ce match-là?
Après, ils ont déjà à peu près tous les flops côté Benfica. Mais pour moi, Vlachodimos, il est pas mal aussi dans cette défaite parce que franchement, c'est un peu lui qui concède déjà la première occasion.
Ils ont pas perdu Kevin.
Ouais, excuse-moi, mais c'est limite comme une défaite hein, parce que.
Les gars, ils ont pas le bon résultat en fait.
C'est un peu miraculeux.
Tu crois l'a gagné, l'autre, tu crois l'a perdu.
C'est un peu miraculeux quand même. C'est un peu miraculeux parce que.
Avec un gardien comme ça, c'est miraculeux.
Voilà, bah, surtout que Trincao, je pense que sa frappe, elle est toute lente. Et comment tu arrives à la remettre dans l'axe, plein axe, et tu lui offres clairement une passe décisive pour qu'il aille marquer.
Le deuxième but me choque plus. Diomandé met une belle tête, hein, mais quand même. Enfin,
pour moi, elle est un peu plus dure parce qu'elle est déjà quand même un peu placée, même si elle n'est pas très forte, elle reste quand même placée.
Non, mais je l'entends, mais je suis plus choqué par le deuxième but.
Si le ballon n'est pas sur lui, il ne fait pas d'arrêt. C'est simple.
Par contre, le monde. Parce que le duel Poligno-Velacodimos en deuxième mi-temps, le monde s'est arrêté. Hein. Là, tu sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Hein. C'était. Je sais pas, but, pas but. Franchement, les deux méritaient de. Il y en a un, il méritait de prendre un but et l'autre de ne pas en marquer. Enfin, c'est
on aurait dit deux clowns.
Ah oui, clairement.
Ah ouais. Non,
mais globalement, globalement, je pense que déjà, le problème de BFK, c'est. Plutôt le problème de Schmidt, c'est surtout qu'il fonctionne un peu comme concession. Il fonctionne au statut. J'ai l'impression que j'ai l'impression que dès qu'un joueur performe, bah t'as l'impression qu'il peut pas aller sur le banc et que t'as l'impression que le joueur peut faire tout ce que les meilleures performances au monde dès qu'il rentre, bah il aura pas sa chance au prochain match parce qu'il y a un peu cette histoire de statut, par exemple avec Ramos ou même un joueur mal. Qui est pas bon depuis 2-3 mois. Et allez, après, il y a la jurisprudence Jean Neves, puisqu'il a quand même instauré Jean Neves à la place de Florentino Luis. Mais quand même, ça reste. De quoi ?
C'est le gars qu'il fallait pas enlever, à mon sens. Moi.
Oui. Voilà. C'est plutôt chiquigne. Mais pour moi, c'est un problème de statut. C'est pareil avec Concession. C'est devant, par exemple, tu as des joueurs comme Evanilson qui sont mauvais depuis quelques mois. Et au final, bah, tu as un joueur qui porte un peu le FC Porto en attaque avec Danny Lauder. Et au final, il a très peu de temps de jeu parce que le mec devant lui coûte a une plus grosse valeur marchande, coûte plus cher. Donc, bah, il va être aligné à tous les matchs.
Ouais, j'entends parfaitement. Garçon, pour ce qu'on a été complet sur ce match-là. À chaque fois, on fait 45 minutes de débrief. C'est bien.
On a été meilleur que BFK.
Donc, on va passer au sujet suivant, qui est du coup la qualification. C'est bon, c'est officiel, la qualification. Oui, la qualification pour le deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions de la part de Braga, qui finit une nouvelle fois troisième. Alors, ils ont fini troisième aussi en 2019. Et 2020 avec Arthur Jor et Bis Repetita, le même entraîneur qui finit troisième aussi devant le Sporting, des fois devant le Sporting, des fois devant Ruben Amorim. Et si je ne dis pas de bêtises, Mathieu, ouais, c'est historique qu'un entraîneur finisse deux fois troisième comme ça pour Braga. Et du coup, je vais te laisser la parole pour faire les louanges de ton équipe et de cet entraîneur, comme on vient l'évoquer, qui est peut-être parfois sous-coté et qui mériterait qu'on en parle un peu plus.
Oui. Très, très, très heureux. Je pense que c'est une belle conclusion pour cette saison. Il reste encore, bien sûr, une finale importante en Coupe du Portugal, mais qu'il y ait victoire ou défaite lors de cette finale, c'est atteindre un podium, c'est pas anodin, c'est seulement la quatrième fois. Alors oui, c'est la deuxième fois en trois ans, c'est la deuxième fois avec Arthur Jorge. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il mérite les louanges de cette troisième place en 2020. Il était arrivé lors des cinq dernières journées, Braga avait cinq points de retard sur le Sporting de Ruben Amorim et avait réussi à arracher ce podium dans cette confrontation à distance entre Braga Porto la dernière journée et le Sporting Benfica aussi de l'autre côté. Donc oui, c'est ce que j'aime dire, c'est la fierté des nôtres parce que c'est un entraîneur quoi, qui représente beaucoup pour ce club, qui a été élu l'une des légendes en tant que joueur du centenaire il y a deux ans, qui a donné 25 ans de sa vie, voire plus même entre les années de formation, entre les années en tant que joueur, entre les années en tant qu'entraîneur de la formation et aujourd'hui en tant qu'entraîneur du club, donné beaucoup d'années de sa vie, qui n'a pas été épargné par les siens, par ses propres supporters dans des moments où ça a été un peu plus compliqué. C'est un peu le problème qu'on a chez nous, mais voilà, il est parti avec un statut d'entraîneur peut-être un peu propulsé par son statut d'ancienne légende. Et je pense que tout au long de la saison, il a démontré que c'était un entraîneur extrêmement compétent. Et on ne pouvait pas avoir un entraîneur moyen pour atteindre un podium face à néanmoins quand même un Sporting qui n'a pas perdu un match sur les 17 dernières journées. Donc il a fallu quand même tenir un rythme sur la deuxième partie de saison. Avec des moments certes plus compliqués, défaite face au Sporting, la défaite face à la Fiorentina et le parcours européen qui a fait un peu plus mal, qui reste un point noir, mais qui globalement après sur tout le reste, voilà, a démontré que Braga pouvait tenir la distance sur un championnat. Donc globalement pour le club c'est un très beau symbole, c'est vraiment une bon, une réalisation de très très symbolique, atteindre un podium, c'est voilà, c'est rare. Il y avait de la compétitivité jusqu'à pas longtemps, on pouvait encore entre guillemets croire au titre, quand on était mathématiquement encore potentiellement on pouvait jouer le titre, et c'est ça qu'on attend de ce club aujourd'hui. Je pense que le top 4 c'est assuré. Braga, voilà, c'est, ça fait 6 ans que le top 4 portugais n'a pas changé. Aujourd'hui on est sur un peu un canard au niveau de ses 4 premières places, mais aujourd'hui on a sur un Braga qui vient chercher de, voilà, de, sur les 6 dernières années 2 fois le podium. Cette année c'est un peu plus spécial parce que tu peux aller chercher avec des champions. Ce sera très difficile, il y a des tours préliminaires, mais bon, comme j'ai répété hier, l'histoire de ce club au niveau européen c'est joué sur des matchs de play-off de pour accéder avec des champions, des matchs mythiques face à Séville, face à l'Odinese. Donc voilà, c'est en 2020 une coupe de la Ligue et un podium, en 2021 une coupe du Portugal, en 2022 une Ligue Europa, en 2023 aujourd'hui un podium et peut-être on y croit, une coupe du Portugal. Et donc c'est pour moi le témoignage d'un club qui a du succès, qui a du succès à son niveau, qui chaque saison est compétitif, qui chaque saison arrive à gagner des choses, à atteindre des objectifs importants, à progresser, à valoriser ses joueurs, à les vendre très cher, parce que finalement même cette année on a vendu Vitinha pour 32 millions d'euros, on a fait notre meilleure vente de l'histoire du club. Donc il y a beaucoup de paliers qui commencent à être franchis, et un Braga qui est de plus en plus compétitif, qui doit continuer comme ça dans cette volonté d'être toujours aussi de chercher ses places au championnat jusqu'à la dernière journée. C'est ce qui s'est passé cette année, c'est très positif pour le club, et maintenant on a une coupe du Portugal à aller chercher au détriment de toi Kevin, mais qui pourrait rendre cette saison historique. Donc un grand bravo à cette équipe, un grand bravo à cet entraîneur qui nous avait accordé, voilà, on répète, une interview il y a 3 ans quand il était entraîneur des U19. Et pouvons-nous dire que nous avons eu du flair, j'ai envie de le croire. Et voilà, bravo à lui, merci beaucoup. Merci pour cette saison, et cette saison n'est pas finie, puisqu'il reste cette finale de Coupe du Portugal, on attend ça avec impatience le 4 juin prochain.
Et maintenant, il y a un axe de progression qui est la Coupe d'Europe. C'est vrai que cette année, si on peut mettre un petit bémol sur la saison, on fera un bilan peut-être à la fin. C'est les résultats en Europa League, mais aussi en Conference League ensuite, où on s'attend à ce que Braga, comme tu as dit, qui a une identité européenne, qui a aussi son ADN européen, qui a eu des belles soirées en Ligue des Champions notamment, etc. On peut s'attendre à ce qu'on espère que Arthur Georges progresse là-dessus, mais on n'en a aucun doute. Mathieu, il y a une question pour toi sur que penses-tu de l'arrivée du Qatar dans le développement de Braga?
Je ne sais pas si on a vraiment le temps d'en développer. J'amènerai nos auditeurs à écouter le podcast qu'on a fait avec Nico Villas sur RMC, parce qu'on en parle un peu plus longuement. Globalement, le Qatar Sport Investment QSI n'a pas beaucoup communiqué sur son activité. Hein. Voilà, ils ont acheté 20 et quelques pourcents, 20,67 je crois pourcents de la société anonyme sportive du Sporting Club de Braga. Donc c'est un des actionnaires minoritaires du club, un actionnaire important, mais qui reste minoritaire. Beaucoup de choses, hein, voilà. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui auraient pu pas déstabiliser le club, mais voilà, c'est des informations. Il y a un mois et demi, il y avait quand même une rumeur de l'arrivée, enfin, quand Euro Henrique, qui serait soi-disant le référent QSI pour Braga, voudrait faire venir Francesco Farioli, qui est un des entraîneurs en vogue après son passage à l'Alanya Sport en Turquie, qui voudrait le faire venir et le mettre à la place d'Arthur la saison prochaine. On a eu pas mal de rumeurs de clubs satellites, de joueurs, de contrats et tout, par rapport au PSG bien sûr. Donc voilà, moi, officiellement personne n'a communiqué, c'est juste un actionnaire minoritaire actuellement. On verra si dès le prochain mercato, enfin, il y aura des fonds qui arriveront. Voilà, on a très peu de visibilité là-dessus. La seule info qu'on a finalement depuis 8-9 mois, c'est que QSI a une part minoritaire dans la société anonyme du Sporting Club de Braga.
Ok, merci Mathieu pour ces précisions. Phil, Kevin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Braga, sur leur saison, sur le fait voilà, qu'ils finissent devant le Sporting et qu'ils sont 3e et qu'ils ne pourront plus être moqués de l'éternel 4e du championnat portugais?
Vas-y Kevin.
C'est très bien déjà pour la compétitivité du championnat. D'avoir un Braga qui finit devant Sporting, ça amène encore plus de compétitivité et ça va plutôt forcer les autres clubs à travailler encore mieux, parce que Braga est un club qui travaille très très bien avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc, ça va forcer les clubs à être encore plus performants et plus intelligents dans le recrutement aussi, par exemple. Parce que je pense que Braga va continuer de grandir et comme on l'a vu, Braga, il y a très peu de temps, était encore dans la course au titre. Donc, c'est dire que on pouvait pas se dire ça il y a quelques années, parce que Braga n'arrivait pas à lutter en tout cas pas pour le podium, mais pour le titre, ce qui était le cas peut-être cette année pendant plusieurs mois. Donc, c'est très très bien. Et oui, Braga, de toute façon, vu comment ils travaillent, je pense que ça va pas tarder à ils vont pas tarder plutôt à franchir un cap, surtout avec l'arrivée d'un investisseur qui je pense peut-être même si c'est des investisseurs minimes va faire passer un cap au club. Surtout qu'il y a aussi au niveau de la formation qu'il bosse très bien. Donc franchement, il y a tout qui est réuni pour qu'il continue de grandir, quoi. Franchement, il y a très peu de mauvaises choses à dire sur Braga, hein. Chaque année, ils progressent. Il n'y a jamais une saison où ils sont en dents de scie, où ils finissent comme un Guimarães en cinquième place, sixième place. Donc, c'est de la régularité.
Phil, pour compléter.
Ouais, bah écoute, ils ont déjà dit pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est mérité. C'est même peut-être un peu sévère parce que par rapport à ce qu'ils ont au football qui a été développé, c'était pour moi un des plus beaux footballs du pays. Et dans un monde où le FC Porto n'est pas une équipe aussi hargneuse qui arrive à gagner des matchs compliqués, je pense qu'ils finissent deuxième. Maintenant, le FC Porto a ce supplément d'âme qui fait que il va chercher des matchs ou enfin des victoires où même lui ne pense pas que ce puisse être possible. Et c'est ce qui fait qu'ils sont encore à la lutte pour le titre à une journée de la fin. Braga a fait un parcours, je crois qu'on en avait parlé il y a deux trois émissions. Si ce n'est la meilleure saison, c'est une des meilleures saisons de son histoire au bilan comptable.
Oui,
En
au
championnat,
début,
c'est la
c'est
meilleure.
du parquet.
Ouais, mais depuis le passage à 18, 16.
Depuis le passage à 18, on a égalé le nombre de
16.
points face à Boavista avec 75 points et donc on a une journée pour le battre.
Voilà.
Donc.
Donc ouais, c'est en vrai, c'est un parcours d'équipe qui se bat pour le titre. Alors ça a été étonnant un petit peu en octobre-novembre où ça parlait de d'éviction de Arthur Georges.
Je te dis, il n'a pas été épargné. Il n'a pas été
Ah ouais,
épargné
mais
par les
après,
tiens, par la
je sais
presse
pas
de la
si
région,
c'est
pas mal de
ça.
choses.
Mais enfin, on trouvait ça particulier. Maintenant, voilà, il y a un effectif qui est qualitatif et quantitatif. C'est ce qu'on disait aussi. Le step-up, ça serait surtout en Europe. Maintenant, il faut quand même mettre en exergue le fait que le tirage n'était pas simple parce qu'ils ont fait face à une Union Saint-Gilloise qui est en pleine expansion et qui travaille très bien. C'est un des clubs européens qui bosse le plus. L'Union de Berlin a aussi une équipe qui bosse très bien en Allemagne. Alors, avec l'expérience qu'a Braga, on est en droit de demander un peu plus aussi. Mais je peux comprendre. Et puis, il y a eu des matchs, je crois que c'est à Braga, où ils sont un peu sabotés tout seuls, je crois, contre l'Union. Donc, il y a de ça. Maintenant, c'est dans ce genre de parcours que tu apprends. Et pareil, la Fiorentina, c'était un gros poisson, mine de rien, parce que bah, ce n'est pas les mêmes budgets, donc ce n'est pas les mêmes effectifs. Mais ouais, c'est une très très belle saison avec juste cette taxe d'amélioration à prendre en compte. Et ça passe déjà par les tours qualificatifs de Ligue des Champions. Je crois qu'il y a déjà deux, trois. Tu as déjà les deux, trois noms, Mathieu, que vous pouvez affronter. Enfin, ce n'est pas encore complètement établi, mais.
Ouais, tu vas. Enfin, c'est pas encore établi parce que les championnats sont pas tous finis, mais tu peux, premier tour, tu peux affronter ouais, le Servette ou Lugano en Suisse, le Dnipro moins 1 ou le Shakhtar, ça dépend de qui gagne le titre. Sturm
Alors, le
Graz
Shakhtar
ou
et l'Ajax, ça
Karabakh.
devrait être évité.
Et ouais, l'Ajax aussi, ça devrait être évité. Voilà, après, donc si tu gagnes ton deuxième tour, ensuite c'est potentiellement si tous les favoris des barrages. Sont au niveau et respectent leur favoritisme, c'est logiquement soit l'Olympique de Marseille, soit le PSV Eindhoven au troisième tour préliminaire. Est-ce que ça nous fait peur? Non, vous l'avez très bien dit, l'axe de progression par rapport à la première saison d'Arthur Georges, c'est la Coupe d'Europe, clairement. C'est de mieux gérer certaines rencontres à ce moment-là. Mais il va falloir, enfin, le truc, c'est qu'il va falloir s'améliorer très très vite, hein, parce que ça arrive très vite, ça
Faut
arrive
bien
dans une
bosser
bonne.
cet été, quoi.
Il faut bien bosser cet été. L'histoire raconte, c'est pas l'histoire, mais à l'époque, Antonio Salvador a toujours beaucoup investi, enfin, beaucoup investi dans les moyens qu'on avait dès les phases, pour la phase de préliminaire de Ligue des Champions. Potentiellement, après, tu vends, même en 2012, donc on se qualifie face à l'Udinese, on avait investi, on avait récupéré, on avait réussi à faire venir Eder, qui était en fin de contrat à Coimbra, on avait réussi à lui proposer un bon contrat, on avait fait venir Aubameyang, qui était à l'époque le plus gros transfert de l'histoire du club, pour 3 millions d'euros, donc on avait un peu cassé la tirelire selon nos moyens à l'époque, pour essayer de remporter ce barrage qui était très important. On a réussi à le faire, ça ne nous a pas empêché de vendre Lima Benfica deux jours plus tard, mais globalement, Antonio Salvador, voilà, en sachant que tu as vendu Vitinha pour 32 millions d'euros l'hiver dernier et que tu n'as pas encore dépensé cet argent, entre guillemets, que tu peux. Voilà, c'est, déjà, je pense que, avant de parler de QSI pour l'investissement, je pense que oui, Braga investira assez tôt dans le mercato, oui. Que le club est maintenant fixé sur la potentielle compétition que le club peut toucher dès la saison prochaine. Donc oui, les mois prochains vont être majeurs pour l'histoire récente du club, parce que l'année prochaine, il n'y a que deux clubs portugais qui peuvent potentiellement gagner des champions. Qu'il y a un club qui, comme Benfica, qui sera sûrement champion la semaine prochaine et qui est dans une phase qui est plus prospère d'un point de vue de pas mal de choses au niveau de son projet, même si selon moi ça reste toujours pas le meilleur projet portuel, ça reste nous, parce qu'on n'est juste pas un projet sur un an et demi, on juge un projet sur 6-7 ans, et actuellement sur les 6-7 dernières années on est pas mal, mais on a un Porto qui pour moi a des fondations trop fragiles, et notamment lié à son entraîneur, dans le sens où s'il s'en va, bah, qu'est-ce que tu fais ? Et le Sporting aussi a des fondations en termes de jeu plus solides, je trouve, mais je pense que si l'entraîneur s'en va aussi, t'as pas la structure directive pour réellement voir le futur de la meilleure des manières. Donc il y a des enjeux pour moi dans les 1 ou 2 prochaines années, du côté du Portugal, où Braga peut encore prendre un peu plus de poids dans ce top 4.
Gars, on va passer du coup au dernier sujet de la soirée, où on avait déjà un peu invoqué un peu cette course pour le maintien, et aussi du coup on pourra aussi évoquer le fait que Arouca revient en Europe. Donc là pareil, on a parlé déjà un peu du maintien et on va pas revenir sur ce qu'on disait là-dessus. On avait fait un petit pronostic la semaine dernière, et du coup on a eu beau
c'était rapide.
C'était rapide en voyant Maritimo être parasiste, et donc Maritimo joue
le match.
Match où perso je ne sais pas pour qui je serais, parce que d'un côté le Maritimo de José Gomes me plaît, mais d'un côté revoir Amadora en première division, ça me ferait des bons souvenirs d'enfance, mais voilà, ça risque d'être un beau match à suivre. Donc les garçons, un petit mot sur ce match-là, sur ce barrage-là, et aussi sur la descente de Santa Clara et de Passos, qui sont pour moi largement mérités, notamment sur Santa Clara. Et on est revenu aussi la semaine dernière sur le fait que quand tu changes de direction, de président, d'entraîneur comme ça, beaucoup de fois comme ça, sur les dernières années, forcément tu finis par le payer. Mais aussi sur ensuite la qualification européenne d'Arouca, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi. Et c'est un réel exploit pour ce club qui était en deuxième division il y a 2-3 ans de ça. Ils sont de nouveau en Europe, ce n'est pas la première fois. Et ça montre un bon travail de la part de l'entraîneur et du club. Donc, Kevin, je te laisse commencer, et ensuite les autres pouvaient compléter.
Déjà, on espère que le Maritimo et Santa Clara iront droit en D2, parce que pas envie de jouer dans leur stade à l'autre bout du monde.
Personne ne veut le dire, ça. On en a marre d'aller dans les îles.
On en a marre d'aller jouer là, dans le fin fond du monde, dans des îles perdues, là.
Santa Clara, c'est officiel.
Il y a ça. Maritimo est un déplacement quand même sacré en difficile chaque saison.
Et même d'aller jouer à Passos aussi. Vu comment on a du mal ces dernières années, ça nous fait
peut-être une belle jambe
pour le FC Porto.
Pour le Timonese.
Parce qu'on avait bien du mal à chaque fois face à eux. Voilà. Mais bon, de toute façon, il y a Molenes qui monte, ouais. Donc on va avoir encore plus de mal. Mais bon, en vrai, oui, c'est logique, hein. C'est deux équipes. Après, c'était quand même deux équipes qui, ces dernières années, avaient touché l'Europe. Donc c'est un peu aussi un constat qu'on peut faire sur le fait que. Voilà, c'est un peu un constat qu'on peut faire que c'est quand même compliqué de gérer une saison où tu joues la Coupe d'Europe et en même temps tu joues championnat, surtout quand tu n'as pas l'effectif pour. Il faut être vraiment bien préparé. J'ai peur que Aruka, l'année prochaine, s'il ne se prépare pas bien, ça soit un peu la même histoire. Mais force est de constater que déjà pour jouer l'Europe, il faut être prêt et avoir suffisamment de moyens parce qu'on sait que c'est difficile d'enchaîner les matchs. Mais après, sur le plan sportif, c'est logique, hein, comme vous l'aviez dit, je sais plus dans des tweets, la direction sportive de Santa Clara, c'est un peu le bordel. Ils ont viré je sais pas combien de coachs depuis le début de saison. Donc, quand tu travailles pas bien, bah, direction la D2, hein, c'est le foot, ça paye. Le foot, c'est que ça paye cash plutôt. Et Passos aussi, hein, t'as mal travaillé cette année et t'as viré Peixote et tu l'as remis en fonction quelques mois après.
C'est ça.
Bah voilà. Le football, c'est paye cash, hein, tu fais des mauvais choix et au final, tu te retrouves en D2.
Phil, tu peux compléter?
Bah écoute, ouais, pareil, hein, on avait déjà évoqué ce sujet il y a quelques temps. Bah, le maintien, ça a été plus rapide que prévu, parce que tout de suite après notre émission, le résultat fait que Malitimo a du coup validé sa place pour le barrage. Barrage qui sera intéressant à voir face à Stryl. Pareil, hein, pour le déplacement, Amadora, c'est beaucoup plus proche pour nous que Malitimo, je ne vais pas te mentir. Donc, on devrait faire un mini stade du Derlouge. Donc, je pense qu'ils vont à pied même carrément. Et pour ce qui est d'Alok, bah, très 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 belle saison. Et ils ont été réguliers bah, toute la saison, quoi. Alors que Casapia, par exemple, a un peu flanché sur la deuxième partie de saison. Mais c'est plus ou moins logique. Maintenant, comme disait Kevin, il faut faire attention parce que les clubs portugais ont tendance à se brûler les ailes une fois que l'Europe est enfin une fois qu'ils vont en Europe, parce que bah, tu as cette envie d'investir pour avoir un effectif plus ou moins compétitif, histoire de ne pas faire mauvaise figure. Mais le problème, c'est que souvent ça se passe mal et derrière tu te surendettes, tu finis en deuxième division. Et du coup, on a plein de clubs comme ça. Donc, il y a eu Pasfreire, Rui Ave, Estoril a été en difficulté aussi. Et même Guimarães, ça peut lui pendre au nez, pour le plus grand plaisir de Mathieu, bien évidemment. Donc.
Non, non, c'est faux, je ne suis pas pour une descente de Guimarães. Moi, je suis pour qu'ils finissent 16e tous les ans. Voilà, comme ça, au moins, il y a les temps d'échappement.
Maintenant, moi j'ai une question parce que il n'y a pas une place qui se libère par rapport au vainqueur de Coupe du Portugal?
Mais non, c'est pas.
Non, elle s'est déjà libérée.
Bah oui.
C'est un
Pour
juste.
sixième
Pour une
sixième
sixième.
Malo, quand même. Ok.
Ouais.
Ok, bon
Et
bah
encore,
voilà.
parce que attends, parce que la dernière journée, c'est. La dernière journée a un peu d'enjeu, si je dis pas de bêtises, parce
Non,
que
c'est bon.
Bah
Il
c'est
n'y a plus
fini,
de
du coup.
Malais et Jérôme qui vont en conférence du coup.
Oui, mais qui finit
Ouais.
cinquième et sixième? Parce que c'est pas la même
Ah
chose.
oui, ok.
Le truc,
Ah
c'est que
oui, bah il y a
Guimarães
deux points.
affronte Porto la dernière journée.
Ouais, c'est vrai.
Le Vitória a 53 points, Arouca 51 points. Si Arouca gagne et que Vitória perd, le Vitória finit
C'est
sixième
quoi, c'est.
encore et il joue 3 tours de barrage, 3 tours de barrage, quoi.
Le cinquième, il va direct en phase de poule
Non.
de Conférence League?
Non,
Il
bah
a un tour?
non. Il y
Non,
a deux tours.
c'est pour ça qu'on était dans la mouise, parce qu'il y a des tours préliminaires, quoi.
On n'arrive pas à y arriver, quoi. Et le truc, voilà, je ne sais pas si je peux enchaîner, Alex, mais bravo
Vas-y.
Arouca, hein, franchement. 2019, donc on commençait Golasso. Arouca était en troisième division. Donc ça va vite, hein, parce qu'en 2016, ils jouaient un play-off magnifique face à Olympiakos pour se qualifier pour l'Europa League. Ils sont perdus en prolongation, si je ne me trompe pas, à Athènes. Et finalement, ils ont fait le yo-yo jusqu'à retrouver une place européenne. Si tu compares, imaginons, allez, je veux dire qu'ils vont finir cinquième. Le cinquième dernier, c'était Gil Vicente. Gil Vicente s'est cassé les dents en Conference League et avait pour moi une bien meilleure équipe et de bien meilleures individualités et pratiquer un jeu d'un niveau bien supérieur, sans manquer de mérite. Hein. C'est un club qui a moins de moyens, qui fait vraiment des miracles. Il faut donner beaucoup de mérite et beaucoup de crédit à Armando Evangelista, qui a une carrière d'entraîneur un peu difficile après son passage en équipe A de Guimarães, en étant entraîneur de l'équipe B. Il a eu beaucoup de mal à rebondir. Il a rebondi, il a montré ses qualités, et il a fait en sorte que cette équipe soit compétitive, qu'elle soit capable de faire plein de choses pour bien préparer chaque match et arriver à gratter des points et gratter beaucoup de points cette année. Donc vraiment bravo à lui. Bravo même à Guimarães, hein, Moreno est un entraîneur qu'on aime beaucoup et qui selon moi est vraiment un futur très bon entraîneur au Portugal, et qui vit dans un contexte de son club, dans un contexte difficile d'un point de vue financier, dans un contexte difficile d'un point de vue de départ de pas mal de joueurs, des deux années dernières, donc de devoir faire avec un peu moins, encore un peu moins, parce que c'est un club qui a des difficultés financières, et il a quand même réussi à atteindre cette compétition européenne, et c'était pas forcément gagné, parce que oui, on a parlé de Famalicão, de Chaves, des équipes qui pratiquait aussi un bon football et qui était compétitif, qui ont des bons entraîneurs et qui auraient pu aller chercher ses places européennes aussi, donc il a réussi à le faire. Mais finalement, comme on l'a dit, Santa Clara et Passos les deux d'ailleurs étaient en Coupe d'Europe, en Conference League la première année, il y a 2 ans à peine, et aujourd'hui ils sont en D2. Ça va très vite, ça démontre aussi que le niveau finalement entre la 5e et la 18e place est très resserré, trop resserré. Il n'y a pas assez de clubs qui arrivent, voilà, même si c'est pas qu'il y a passé, il n'y a aucun club qui arrive à se démarquer finalement. Guimarães un peu plus que les autres, certes, parce qu'ils vont quand même plus souvent dans ces places-là, mais globalement on est sur des clubs qui ont peu de moyens, qui font une très bonne saison, qui vont se faire dépouiller à la fin de saison prochaine. Je sais pas ce que ça va donner pour Arouca, j'ai très peu d'espoir qu'Arouca se qualifie en conférence l'année prochaine, on sera de tout cœur derrière eux, mais j'y crois pas trop. Guimarães, ça va être difficile aussi. Donc globalement, l'année prochaine, tu peux te retrouver encore avec 4 clubs sur les 6 possibles. Et ça revient au débat qu'on a eu il y a quelques semaines et qu'on a souvent ces dernières années à cause de la Conference League, de la compétitivité du championnat portugais. Et juste en revenir voilà, sur des rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais des déclarations de certains hauts dignitaires de la part de Benfica qui, voilà, on est en 2023 et qui arrivent à douter de la centralisation des droits télé pour faire plaisir au peuple. Et ben, on verra l'année prochaine, on verra dans quelques années. Mais la compétitivité du championnat portugais, elle passe aussi par là. Et malgré tout, bravo à Roca, bravo à Guimarães, bravo aux équipes qui ont joué l'Europe jusqu'à la fin. Mais globalement, c'est pas bon signe pour le football portugais dans les années à venir au niveau des compétitions européennes.
Ouais, je te rejoins que si on fait encore une saison à 4 clubs sur 6 possibles, ça va commencer à devenir très très inquiétant, et on se battra ensuite avec l'Ukraine et les autres pays, et
la Belgique,
les championnats français, hollandais et autres, on commencera à regarder encore plus vers le bas, et ça s'annonce pas
glorieux. L'Autriche,
enfin bref, les garçons, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou on peut passer aux mentions spéciales?
Non, je crois qu'on est bon.
Je crois que c'est bon. Tout est bon pour vous? C'est
pas mal.
Ouais.
On va passer aux motions spéciales. Kevin, est-ce que tu en as une? Philippe, si tu veux commencer. Qui veut commencer?
Bah, écoute, moi j'en ai une.
Vas-y.
Donc, je l'ai déjà faite cette année, mais je vais la refaire parce que c'est un peu grave. Motion spéciale à Cardoso, encore une fois, qui arrive encore à marquer. Il a marqué Oscar Cardoso. Ouais, pas Fabio, non. Quand même, qui du haut de ses 40 ans et pour son anniversaire a encore marqué un but, comme quoi lui peut le faire, alors que j'ai un attaquant qui peine depuis des mois. Enfin, il a marqué contre Portimonense quand même, on peut lui tirer la pierre, mais donc ça fait plaisir de voir nos vieillards continuer à jouer au ballon. Et pareil pour Gaëtan qui a marqué avec passe, qui a pleuré. Donc, ça, c'est les Argentins. Ils aiment bien, ils aiment bien pleurer généralement.
Kevin, est-ce que tu as une mention spéciale?
Mention spéciale, je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire, il y a une émission entre-temps, mais à José Mourinho qui va encore aller en finale de d'Europa League. Donc chapeau à lui, en espérant qu'il la remporte, parce que ça rendrait encore plus son oui. Monument. Du football encore plus grand dans l'histoire du football, parce que ça fera encore une compétition qu'il aura gagnée avec un club qui a des moyens limités et qui a quand même un effectif assez limité aussi, mais qui malgré tout a réussi à être solide et qui a plutôt fait une seule frappe face à Leverkusen, mais qui s'est qualifié. Donc, comme quoi, Mourinho sait bien défendre, comme d'hab.
Ah, ça, s'il y a bien un truc qui s'est fait. En place des équipes suites, ça c'est clair. Mathieu, est-ce que tu as une mention spéciale?
Oui, mention spéciale à Oscar Cardoso, qui à 40 ans est un meilleur attaquant que Gonçalo Ramos.
la balle gratuite.
La balle gratuite.
Mérité,
je sais pas. Non, mention spéciale Paulo Fonseca. Merci pour les émotions. Revenir comme ça. Très belle deuxième mi-temps face à Marseille.
Oui, quand tu étais en loge grâce à lui.
Ouais. Non, non, ça m'a coûté cher. Mais bon, j'ai une bonne vision. Un très beau stade, lui. Non très,
tu comprends ah oui bien.
Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Et, DVE et tout. Belle ambiance. Hein. Très, très belle expérience footballistique. On sent des gens qui aiment leur club, ça fait plaisir. Hein. Et pas d'autres qui vendent leur place pour laisser l'ennemi jouer, voir, voir son club, son stade gagner le titre. Ça, c'est des vrais supporters. Non, non. Voilà, Paulo Fonseca qui peut encore être quatrième et jouer l'Europa League l'année prochaine avec Lille. Donc, ouais. Voilà. Et Jonathan Mbamba qui a marqué devant moi alors que je le critique depuis.
Waouh.
Tout le monde le critique.
Ça, c'est pas. Ça, c'est... Mais tu sais que bon. Ça.
Il a enlevé son maillot, il s'est trompé de chemin, mais c'était pour moi. Clairement, c'était...
Il avait marqué pour toi, Mathieu.
C'était pour toi.
Après, ça, c'est la même chose que Alex qui va voir un match et ça finit en bagarre.
Ah, ouais, écoute, tu me parles.
Ce sera la mention spéciale. Vas-y,
Alex. Moi, la mention spéciale, moi j'en ai deux. J'en ai une qui n'est pas glorieuse. Mention spéciale au bad buzz que je subis depuis un jour qui est totalement mérité. Des sauces, j'en ai pris sur Twitter. Pour rien souvent, très souvent pour rien, mais celle-ci est tout à fait justifiable et je ne vais pas m'en dédouaner, mais j'en assume les responsabilités comme j'ai toujours assumé mes erreurs. J'ai mal communiqué, les mots n'ont pas été
maladroits un petit peu, juste
c'était pas le bon contexte. Maintenant, j'étais au stade, moi, quand j'ai vu à la 20e minute Vinicius provoquer les supporters ou autre, ou parler avec l'arbitre, etc., c'est tout ce que je déteste dans le football. C'est pour ça que je déteste Nuno Santos, que j'aime pas forcément l'attitude d'Otavio. C'est pour ça que j'aime pas Bruno Fernandes et Vinicius. Et de la même trempe, parler avec les arbitres, se jeter à chaque fois, faire des signes aux supporters, je ne comprenais pas. Et c'est ce que je voulais mettre en avant dans le tweet. Sauf qu'entre-temps, il y a des choses qui ne doivent pas avoir lieu dans le football, que je dénonce totalement, que je ne cautionne pas, loin de là. Mais je n'avais pas à mettre ça dans un même tweet. J'aurais dû les séparer, j'aurais dû parler du comportement de Vinicius bien plus tard que ça. Vinicius va faire sa carrière encore 5-10 ans, donc j'aurais dû en parler plus tard. En parler maintenant, c'était pas peut-être le bon moment. Voilà, j'ai fait une faute, j'en assume les erreurs. Maintenant, venir souhaiter la mort de mes parents en DM, ça va pas changer grand-chose, à part ça montre juste votre débilité, et ça vous met au même niveau que moi avec mon tweet. J'ai eu des gens qui m'ont très bien parlé, qui ont su me faire voir que je devais prendre du recul sur mon tweet. Et au début, c'est vrai que j'étais très en mode non, j'ai raison, etc. Et en fait, avec une nuit passée, avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Maintenant, les gens qui viennent pour insulter, pour menacer ou autre, ça ne vous rend pas service, et moi, ça ne me rend pas service, et ça ne me permettra pas d'avancer. Mais voilà, maintenant, je sais que c'est un sujet qu'il faut en parler, parce que quand on dit que c'est un sujet sensible, qu'il ne faut pas en parler, non, il faut en parler. Le racisme dans les stades, il faut en parler, il faut les combattre. Donc moi, j'en parlerai toujours, mais j'essaierai d'utiliser les bons mots. Aucun comportement, que ce soit de Vinicius, que ce soit de n'importe quel autre, mérite des cris de singe. Ça, je ne le cautionnerai jamais. Mais voilà, le comportement de Vinicius n'est pas adéquat, n'est pas bon. Mais ça, j'aurais dû en parler bien plus tard, et ça n'avait rien à voir. Enfin, voilà, les deux sujets ne devaient pas être ensemble dans un même tweet, et c'est ce qui a apporté la confusion. Et je m'excuse si j'ai pu blesser des gens, si j'ai pu énerver des gens. Enfin, c'était pas du tout voulu, ça va à l'encontre de mes valeurs. Les gens qui me connaissent savent très bien ce que je suis, c'est pour ça que ça ne m'empêche pas de dormir. Je sais ce que je suis, les gens savent ce que je suis. Maintenant, voilà, je m'excuse si ça a pu vexer. Et ça, je ne recommencerai plus, parce que bah, voilà, je sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur les réseaux, et même dans la vie de tous les jours, simplement. Et ensuite, bah, deuxième mention, une mention un peu plus joyeuse, comme Anoï 17. Qui vont jouer une finale demain contre la France. Voilà, il faudra absolument gagner contre les Français pour se qualifier en quart de finale. Ça risque d'être compliqué, mais on y croit. Ça va être compliqué. On s'est pris une belle fessée contre l'Allemagne. On a su réagir contre l'Écosse, mais bon, c'est pas la meilleure des générations. Alors les joueurs sont talentueux, mais collectivement c'est très compliqué. Mais voilà, je vous conseille quand même de suivre ce match. Je dirais pas que vous allez prendre du plaisir.
C'est fort, hein.
Comment?
Contre l'Écosse, ils se sont baladés sur le premier match, la France.
Oui, sûrement, je te crois, j'ai pas regardé, mais c'est juste que nous, on est très mauvais, et c'est pour ça que j'y crois pas trop. Mais voilà, on va espérer comme une qualification, ça ferait du bien à notre football et aussi à nos petits jeunes. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une belle soirée. On se retrouve très bientôt pour la fin de championnat. Il y a bientôt les bilans qui vont arriver, le 11 type, les awards, et donc ça va être très très intéressant à faire, comme d'habitude, on va prendre beaucoup de plaisir à le faire. Donc on se retrouve très bientôt.
Pour le faire, ça va être magnifique.
Ça va être marrant, ça.
Ça va être extraordinaire.
Donc, je pose un RCT. Ah, mais un petit pouce bleu, ça n'est pas. Attends, j'ai pas regardé les pouces bleus. On a que 6. bon, ça va, bon, ça va. On espère en avoir un peu plus quand même. Mais voilà, n'hésitez pas à vous suivre sur nos
différents... Mon père, il met des pouces bleus, apparemment. Il
m'a dit. Twitter, etc. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.
Et merci au père de Philippe. On est ensemble. On est ensemble le 24 juin.
Merci à lui.
Merci à tous.
Ouais, merci, bonne soirée. Ciao, ciao.